Komufuene. Je suis professeur à l'Université de Chicago. Je viens de compléter un séminaire ici à l'UAG intitulé « Dynamique plurilingue et créolisation linguistique ». C'est un séminaire qui est basé sur deux livres que j'ai écrits. Le premier en anglais, « The Ecology of Language Evolution », qui a été publié en 2001 à Cambridge University Press. Et le second, qui va paraître bientôt chez l'Harmattan, intitulé « Créole, écologie sociale, évolution linguistique ». J'ai été invité ici à cette émission pour faire un petit résumé de ma recherche. Et je vais commencer par expliquer la notion d'évolution telle que je l'utilise. Je l'utilise dans le sens traditionnel d'un changement qui s'opère dans les structures d'une langue, mais je l'utilise aussi pour décrire les changements dans les conditions pragmatiques qui régissaient l'usage d'une langue. Et je l'utilise aussi dans un sens qui est plus proche des études des populations, surtout en génétique des populations, le sens de diversification ou spéciation langagière. Et je l'utilise aussi dans un autre sens qui est plus proche de la biologie et de l'étude des populations, celui qui concerne l'émergence de nouvelles variétés langagières et la mort des langues. Et dans ce dernier cas, la mort des langues surtout est un sujet très courant que les gens discutent beaucoup dans le contexte de la globalisation que les francophones préfèrent désigner comme mondialisation. Alors, quand on parle de l'évolution, une des questions qui se pose est si l'évolution procède d'elle-même ou s'il y a des mécanismes particuliers qui amorcent l'évolution. Et dans l'approche que j'adopte, j'argue que l'évolution est déclenchée par des conditions écologiques. Et l'un des défis dans ma recherche, c'est d'articuler ce que c'est que l'écologie linguistique. Et l'écologie linguistique, c'est une notion assez complexe. Il s'agit de l'environnement social dans lequel les locuteurs utilisent leur langue. Il s'agit aussi des conditions socio-économiques qui conditionnent les locuteurs à se comporter linguistiquement d'une façon ou d'une autre. Mais il s'agit aussi d'une écologie physique. En termes de conditions de sol, de conditions de terrain, de conditions climatiques, qui déterminent une forme particulière d'économie. Et l'économie, à son tour, influence la structure de population. Et j'entends par la structure de population une organisation sociale qui détermine qui interagit avec qui se laisse influencer par qui fait des accommodations à qui. Et tous ces facteurs influencent l'évolution linguistique. Alors, moi je me suis inspiré dans ma recherche à partir de l'étude de vernaculaire créole, tel que celui qui est parlé en Martinique ou en Guadeloupe, ou en Jamaïque, dans les Antilles en général. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, on voit l'évolution langagière déterminée par l'esclavage. Et l'esclavage était conditionné par un système économique particulier. Et le système économique particulier était lui-même déterminé par certaines conditions climatiques. Par exemple, il y a des conditions climatiques particulières qui ont déterminé l'influence de la culture de la canne à sucre dans les Antilles ou les tentatives de cultiver l'indigo ou autres produits agricoles. Et dans le cas des Antilles, la culture de la canne à sucre a joué le rôle le plus important parce qu'elle a réclamé une masse importante de main-d'œuvre par rapport à une masse moins importante des engagés qui sont venus de l'Europe pour travailler aussi dans les plantations. Et en général, les populations d'origine africaine se sont retrouvées largement majoritaires, étant d'une importance capitale dans ces situations nouvelles. Il y a eu une forme de ségrégation qui a fait que les descendants des Africains ont interagi le plus entre eux-mêmes après s'être approprié la langue européenne, ce qui favorisait la divergence de parler des Africains par rapport au parler des Européens. Et selon cette histoire, les variétés qui se sont développées à partir de parler des esclaves noirs, on les appelle des créoles en général, et les parler qui se sont développés à partir de parler des engagés européens ou des colons européens, on les appelle nouveaux dialectes des mêmes langues européennes. Nous n'avons pas de critères strictement linguistiques pour soutenir la distinction, excepté que la distinction est d'origine coloniale et nous l'avons héritée tout de même. Et nous travaillons avec cette distinction qui est surtout à base sociale. Mais alors, au lieu de rester coincé dans cette distinction, ce que je fais, c'est examiner les facteurs qui ont influencé l'évolution des langues créoles pour remettre en question certains supposés de travail en linguistique génétique, c'est-à-dire la branche de la linguistique qui s'occupe de la diversification langagière, pour voir si dans la façon dont nous avons toujours fait la linguistique génétique, il n'y a pas des choses qu'il fallait revoir. Et il y a effectivement certaines choses qu'il fallait revoir. Par exemple, l'importance du contact des peuples et du contact des langues dans toute évolution linguistique. On pourrait revoir l'histoire des langues indo-européennes, par exemple, pour montrer qu'au cours de 5000 ans, 6000 ans, je ne sais pas exactement combien de temps ça prend, il y a toujours eu des migrations en Europe, que les populations indo-européennes se sont toujours dispersées et dans leur dispersion, elles sont entrées en contact avec des populations pré-indo-européennes et non pas seulement ça, parce que tous les Indo-Européens ne se sont pas dispersés en même temps. Les Indo-Européens se sont colonisés entre eux aussi. Et ainsi, nous savons par exemple que les langues romanes sont issues à partir de la colonisation de l'Europe, d'une bonne partie de l'Europe, surtout le sud-ouest de l'Europe, par les Romains. Et les Romains étaient locuteurs du latin. Et une fois que les Romains ont quitté l'Empire romain occidental, les populations celtiques que les Romains avaient colonisées se sont appropriées le latin. Le contact entre les langues celtiques et le latin a engendré l'émergence de langues romanes telles que le français, l'espagnol et le portugais. Alors la question de savoir maintenant est celle-ci. Est-ce qu'il y a des différences de modalités importantes entre l'émergence des langues romanes et l'émergence des parlers que nous appelons créoles? Et d'une certaine façon, on peut voir l'histoire se répéter parce qu'on peut interpréter la colonisation du monde à partir du 15e siècle par les Européens aussi comme une continuation de la dispersion des Indo-Européens parce qu'à l'origine, il y a quelques 5000 ou 6000 ans, les Indo-Européens se sont dispersés à partir de l'Asie mineure et maintenant, ils habitent toute l'Europe et une bonne partie de l'Asie. Et ce qu'on voit au 15e siècle, ce sont certains des mêmes Indo-Européens qui se dispersent partout au monde. Ils veulent coloniser les Amériques, ils vont coloniser l'Australie, et plus tard, ils vont aussi coloniser l'Afrique. Je dis plus tard parce que, en fait, les Européens ont eu deux sortes de contacts avec l'Afrique. Il y a d'abord eu la colonisation de traite, où ils n'ont eu exercé que le commerce avec les Africains, généralement à partir du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et à partir du XIXe siècle, il y a une nouvelle forme de colonisation, c'est la colonisation d'exploitation de l'Afrique, où ils réclament non pas seulement des forts de traite, des forts de commerce, mais ils réclament des nations entières qu'ils veulent contrôler politiquement et économiquement. Quoi qu'il en soit, quand on examine les différentes formes de colonisation européenne qui représentent maintenant ce que je veux caractériser comme la continuation de la dispersion des Indo-Européens, on doit faire une distinction entre la colonisation de l'Afrique d'une part, l'Afrique et l'Asie d'une part, et celle du Nouveau Monde et de l'Australie d'autre part. Dans le Nouveau Monde et en Australie, c'est la colonisation de peuplement. Les Européens en général quittent l'Europe pour développer de nouveaux domiciles, et dans ces nouveaux domiciles, ils veulent continuer certaines de leurs mœurs de l'Europe, et cela signifie aussi, cela implique aussi développer un système socio-économique qui est sur le modèle européen, et cela signifie aussi imposer des langues européennes qui doivent fonctionner comme des vernaculaires. Alors qu'en Afrique, même si on avait déjà utilisé des langues européennes comme des langues véhiculaires de commerce à partir du 16e jusqu'au 19e siècle. À partir du 19e siècle, de nouvelles variétés de langues européennes, des variétés scolaires sont introduites en Afrique, mais elles ne sont pas imposées sur toutes les populations africaines. Ce sont seulement les auxiliaires coloniaux parmi les indigènes qui sont exposés à ces variétés scolaires de langues européennes. Et ces langues européennes fonctionnent en Afrique, non pas comme de vernaculaire, mais comme des langues véhiculaires associées à l'élite sociale. Alors, ce qu'on voit dans ce cas est une évolution différentielle des langues européennes. Les langues européennes ne se développent pas de la même façon en Afrique, elles n'évoluent pas de la même façon en Afrique et en Asie qu'elles évoluent. Et alors, on se demande souvent pourquoi les créoles sont si différents des autres variétés langagières qui sont parlées dans le Nouveau Monde et dans le reste du monde. Et parfois, on se demande si les Africains ne pouvaient pas bien apprendre les langues européennes. Mais en fait, si on met les choses en perspective, les Africains ont bien appris les langues européennes auxquelles ils étaient exposés. Mais seulement, ils n'étaient pas exposés, par exemple, aux mêmes variétés langagières que les Africains en Afrique. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Africains en Afrique ont été exposés depuis le 19e siècle à des variétés scolaires. C'est plus ou moins comme si on demandait aux gens d'apprendre le latin, et après qu'ils aient appris le latin, on leur dit « vous pouvez vous en servir comme un véhiculaire ». Tandis que dans le Nouveau Monde, les esclaves étaient exposés à des variétés non standards de langues européennes. Et ce n'était pas par le canal de l'école, c'était juste par interaction. Il n'y avait pas d'instructeur, de professeur de langues européennes, et il devait inférer à travers les interactions avec les locuteurs de langues européennes comment parler les langues européennes. Et ils ont bien retenu des choses, par exemple du français colonial ou de l'anglais colonial du 17e et du 18e siècle. Et ce qu'ils parlent reflète précisément ce que les descendants des esclaves parlent aujourd'hui et qu'on appelle créole, reflète en grande partie les parlers européens tels qu'ils étaient usités au XVIIe et au XVIIIe siècle en particulier. Mais ça, c'est pas toute l'histoire. Il y a aussi le fait que quand on apprend une langue seconde, il y a des influences des langues qui ont été parlées précédemment. C'est ce que nous appelons en linguistique des influences substratiques. Et on doit reconnaître des influences des langues africaines dans les parlers créoles. Un de nos plus grands défis, c'est de déterminer quels sont les cas spécifiques qui représentent ces influences substratiques et comment rendre compte de la façon dont s'opèrent ces influences substratiques. Par rapport aux Européens, les Européens ont bien sûr aussi développé des variétés langagières qui sont apparentées au créole, parce que eux aussi, ils ont développé leur parler colonial à partir des mêmes vernaculaires non standards auxquels les esclaves avaient été exposés. Mais depuis l'émancipation, il y a eu des changements. Les populations d'origine européenne et les populations d'origine africaine n'ont pas évolué de façon parallèle. Il y a eu aussi l'introduction de l'enseignement dans les sociétés coloniale ou ex-coloniale, et l'accès à l'éducation n'était pas le même pour tout le monde. Donc, avec l'école a été introduit la variété standard et scolaire de chacune de ces langues européennes, et cette variété a influencé l'évolution des langues européennes aussi. Donc, d'abord, à cause de la ségrégation, les langues européennes ont subi très peu des influences substratiques qui ont affecté, qui ont influencé l'évolution des langues européennes parmi les esclaves et leurs descendants, mais aussi à cause du facteur scolaire, les variétés parlées parmi les Européens ont été influencées d'une façon différente que les variétés qui sont parlées parmi les descendants des esclaves. Alors, dans des endroits tels que les États-Unis, où les descendants des Européens sont devenus majoritaires, on doit aussi faire attention à l'immigration continue à partir de l'Europe, alors que l'importation de la main-d'œuvre à partir de l'Afrique est stoppée. Ça signifie que les variétés parlées par les descendants des Européens continuent à subir des influences à partir de l'Europe, alors que les variétés parlées par les descendants des esclaves subissent moins de ces influences. Alors les choses divergent. Nous parlons désormais de la divergence entre les parlers des populations d'origine européenne et les parlers des populations d'origine africaine. Alors voilà, quand on met les choses en perspective, là on voit qu'il y a une certaine écologie du langage qui varie d'une population à l'autre, et chacune de ces écologies influence l'évolution linguistique à sa façon. Et on pourrait aussi comparer, par exemple, les créoles eux-mêmes, selon qu'ils sont parlés en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, dans le cas des créoles français, ou même en Louisiane. Et dans le cas des créoles anglais, on constate des différences selon que le créole est parlé au Suriname, à la Barbade, en Guyane anglaise, ou en Jamaïque ou aux États-Unis. Et on voit que dans chaque cas, il y a une écologie qui est spécifique à chaque créole. Et la variation dans ces écologies rend compte de la variation qui existe entre les créoles, même si les créoles se sont développés à partir de la même langue européenne. Il y a d'autres aspects de l'écologie qui consistent en la variation qui peut s'observer au sein de la langue de base elle-même, de la langue, de la variété coloniale de la langue européenne. Nous pouvons dire que les variantes qui ont été importées à partir de l'Europe ne se représentaient pas avec des forces, les mêmes forces d'une colonie à l'autre, et les variantes qui pouvaient être privilégiées n'étaient pas exactement les mêmes, ni les variantes qui pouvaient être favorisées par les contacts avec les langues européennes. Donc ça, c'était une perspective quelque peu nouvelle l'évolution des créoles et sur l'évolution langagière en général. Et moi, je présente cette perspective en général comme un programme de recherche et en même temps comme une invitation à ceux qui étudient l'évolution linguistique pour qu'on commence à faire attention à de nombreux facteurs qui influence l'évolution linguistique, et beaucoup de ces facteurs ont reçu trop peu d'attention, et ce sont des choses qui méritent beaucoup plus d'attention si nous voulons vraiment comprendre comment les créoles se sont développées et comment les langues évoluent, et comment les créoles se sont développées et comment les langues évoluent en général. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.